BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains et les cryptos en contiennent une fraction. On leur propose donc un rendez-vous hebdomadaire. C'est chaque vendredi pendant 20-25 minutes, les pros des cryptos. Ils sont là, nos pros. Owen Simonin, bonjour Owen.
Bonjour.
À la tête de Meria, de passage à Paris, et votre chaîne YouTube, Asher. Combien d'abonnés ?
625 000.
Ça plafonne un peu, ouais.
Ah, ça avance moins vite qu'en bull run, c'est sûr.
Claire Balva nous accompagne également. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Experte crypto. Alors la semaine a été intéressante quand même, notamment sur les cours. Les cours du Bitcoin qui sont repartis un peu à la hausse quand même, à plus de 30 000 dollars. Et encore à l'instant où on se parle, on est légèrement au-dessus de cette barre des 30 000 dollars pour un Bitcoin. Et parmi les explications, on a vu un certain nombre d'institutionnels s'intéresser au marché crypto, ce qui a peut-être soutenu les cours. Claire, quels sont ces acteurs qui s'intéressent au marché crypto, qui en ont apporté des preuves cette semaine, et quelles démarches ont-ils entreprises ?
Alors moi j'ai retenu deux grandes nouvelles d'acteurs bancaires, la Deutsche Bank, donc la plus grosse banque d'Allemagne, qui demande une licence pour gérer des actifs numériques. Donc c'est un peu l'équivalent du PSAN en Allemagne. Donc la Deutsche Bank qui fait cette demande au régulateur allemand. Alors c'est pas la première banque allemande à l'avoir fait, la Commerzbank l'avait déjà fait, mais ça reste un signal positif, on va dire, qui montre que les banques allemandes s'intéressent toujours à la crypto. Et puis le deuxième signal qui est arrivé plus tard dans la semaine, c'est CACEIS, la filiale du Crédit Agricole qui s'occupe de la gestion d'actifs, qui obtient l'enregistrement PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers. Alors c'est la troisième banque en France à l'obtenir, après Forge, filiale de Société Générale, et la banque de Lubac, qui est connue dans l'écosystème crypto pour s'intéresser beaucoup à ces sujets, et notamment pour ouvrir des comptes aux startups crypto. Donc là aussi, signal positif, alors qu'il tranche un peu avec les positions que le Crédit Agricole avait pu prendre précédemment. On se souvient des tribunes de son patron, Philippe Brassac, qui annonçait que Bitcoin, que le cours du Bitcoin finirait par atteindre zéro, je ne sais plus en quelle année. Donc on se rend bien compte qu'il y a une forme de dissonance cognitive chez certaines banques, et que là, cette stratégie du Crédit Agricole, finalement, tranche avec certains propos de son patron, qui était extrêmement sceptique. Ils avaient quand même déjà annoncé un partenariat avec Taurus, qui est une entreprise suisse de mémoire de custody crypto l'année dernière. Alors tous ces signaux bancaires, ça montre deux choses. Déjà, ça montre que les banques continuent à avancer même en bear market. Donc il y a toujours un intérêt commercial fort qui pousse les banques à s'intéresser au sujet crypto. Et ça montre aussi que la réglementation, quelque part, les rassure. Et que finalement, la réglementation va probablement profiter aux acteurs en place qui ont les moyens, finalement, d'avoir un département juridique qui fait le job, qui va faire ses demandes, qui va mettre en place les bons process. Et donc, je ne serais pas étonnée dans les mois à venir de voir d'autres banques, à la fois en France, en Allemagne, ailleurs, en Europe, faire ce type de demande de licence.
Effectivement, et d'autant plus vite qu'il faut se dépêcher, c'est ça. Enfin, Crédit Agricole, CACEI, ça arrive juste à temps avant que PSAN, que l'enregistrement PSAN soit renforcé, que la barrière à l'entrée soit rehaussée.
C'est sûr. Alors, c'est plus facile, effectivement, d'avoir un enregistrement qu'un agrément. Donc, c'est intéressant. Maintenant, là, on parle vraiment de grandes banques, donc a priori elles n'auront pas non plus trop de difficultés à mettre en place un agrément.
Qui manque à l'appel là ? Vous le disiez, il y a Crédit Agricole via CACEIS qui s'intéresse aux cryptos, il y a Société Générale à travers Forge, de Lubac, BNP c'est la principale banque française, ils s'intéressent ou ils évitent pour l'instant ?
Toutes les banques s'intéressent aux cryptos, hein. Toutes, quand on écoute un peu les consultants sur la place, les banquiers, ils disent tous qu'ils ont des missions en cours pour faire de la crypto. Maintenant, c'est pas parce qu'ils ont des projets en cours qu'ils communiquent sur ces projets, parce que c'est des sujets qui sont politiquement complexes à traiter au sein des banques. Il y a souvent des grosses dissensions en interne, donc pour accepter de communiquer sur ces sujets, il faut un certain nombre d'autorisations qui sont compliquées à obtenir. Oui.
Puis même, c'est de la communication passive. On a vu qu'ils sont devenus PSAN, donc beaucoup de personnes de l'écosystème crypto en parlent, mais c'est quand même très rarement l'établissement lui-même qui communique. Oui. Enfin, nous sommes enregistrés.
Ils font pas de la pub là-dessus. Oui.
C'est ça.
La semaine qui aura été aussi marquée par les propos de Jérôme Powell, le président de la Fed, qu'on a l'habitude d'évoquer ici dans BFM Bourse, évidemment, toujours un gros impact sur les marchés, le patron de la Fed. Eh bien, il s'est aussi exprimé cette semaine sur les cryptos et notamment le statut des stablecoins. Et stablecoins, c'est cryptoactifs essentiels au marché crypto. Il s'est prononcé sur l'avenir des stablecoins, Jérôme Powell. Ouais.
Alors, beaucoup d'évidence, pour le coup. Une volonté, il appelle très clairement à une régulation et à un cadre défini exprès pour les stablecoins. Donc, non pas les cryptoactifs, mais bel et bien les cryptoactifs adossés à des valeurs, entre guillemets, plus stables, comme, dans sa mention évidemment, le dollar américain. Il mentionne également qu'il est nécessaire, dans ce genre d'actifs, de proposer une clarté sur le fonctionnement du modèle, une transparence absolue sur les réserves qui viennent backer ces fameux stablecoins, avec des réserves qui se doivent d'être de très haute qualité. Après ce qui s'est passé avec le l'USDC de Circle, globalement, on s'attend pas vraiment à un discours différent. Par contre, il précise également qu'il se pourrait que la Réserve fédérale commence à réfléchir et se positionne aujourd'hui sur la création d'un dollar américain numérique. Mais évidemment, et il le précise, ce ne sera jamais une mission qui sera entreprise sans le soutien du pouvoir exécutif et surtout sans l'aval du Congrès. Et donc, pour le coup, il semblerait que ce soit une première grosse prise de position en expliquant que s'il y a un alignement justement de tous ces différents pouvoirs, il se pourrait enfin qu'il y ait une direction qui soit donnée vers un CBDC basé sur le dollar américain. Affaire à suivre, en tout cas, ça reste quand même un discours assez générique, bien qu'il ait été très entendu et qu'il ait été très relayé, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur le sol américain.
Effectivement, mais la création d'une devise numérique, c'est un sujet politique, pas technique, politique avant tout, c'est ça l'idée. Et ça passerait par le Congrès. Donc, alors les pros des cryptos, c'est une semaine d'actu crypto Web3 condensée en 25 minutes, mais même deux semaines cette semaine, puisqu'on n'était pas là la semaine dernière. À cette heure-ci, la semaine dernière, on écoutait tous sur l'antenne de BFM Business Elon Musk qui s'exprimait depuis Vivatech en direct. Vous y étiez d'ailleurs, Owen, je crois.
Tout à fait.
Voilà.
J'ai fait deux prises de parole là-bas et ça nous a permis. Il y avait deux gros événements. Il y avait également Proof of Talk sur la semaine.
On va en parler.
Et ça permet de croiser les ouais. projets crypto.
Voilà, avec toutes ces thématiques tech globales qui ont été mises en avant à Vivatech, Elon Musk, donc on a pu écouter la semaine dernière, il n'y avait pas de pro des crypto. Faut donc qu'on en parle de Vivatech, on n'a pas encore l'occasion de le faire parce que ça a été un sacré succès. Paris, la semaine dernière, était la capitale. Alors, la capitale européenne, mais j'ai même envie de dire mondiale de la tech, en l'occurrence, Claire, ça a été un sacré succès quand même.
C'est un gros événement de l'innovation technologique. Alors, moi, je le vois souvent quand même, enfin, je trouve que c'est un peu devenu le zoo des startups Vivatech. C'est-à-dire que c'est les grandes entreprises qui viennent acheter des très grands stands et qui viennent montrer toutes les startups avec lesquelles elles travaillent pour montrer finalement qu'elles innovent et qu'elles ont plein de partenariats avec des petites entreprises qui font de l'innovation technologique. Donc moi, ce que j'ai trouvé important, intéressant cette année sur la crypto, c'est que contrairement à ce qu'on avait vu certaines années précédentes où il y avait par exemple un très gros stand de Binance qui attirait beaucoup de monde en bull market, là, on a vu des grandes entreprises qui exposaient finalement sur des petits stands au sein de leurs grands stands des startups crypto. Et donc on avait par exemple la Française des Jeux qui montrait sur son stand plein de startups crypto, dont Comet par exemple, qui est un jeu de gaming, un gaming Web3. Et finalement, on voit que les grandes entreprises, même en cette période difficile au niveau des cours, ont cette envie de faire des projets crypto. On a vu chez certains grands cabinets de conseil aussi pas mal de startups crypto hébergées. On voit que Ledger, par exemple, était sur le stand de PwC. Donc voilà, c'est assez typique en fait des périodes où les cours sont en berne. Les grandes entreprises crypto ne vont pas exposer directement avec des gros stands sur ce type d'événement, mais font plutôt des alliances avec les très grandes entreprises pour aller quand même se montrer un peu sur ce type oui. d'événement-là.
Et un nombre de visiteurs qui aura dépassé celui du CES de Las Vegas quand même. C'est un sacré exploit ça. Eh oui, Vivatech qui monte vraiment en puissance, très très impressionnant. Paris, capitale européenne, peut-être même mondiale de la tech, parce qu'il n'y avait pas que Vivatech. Il y avait aussi un autre événement, Proof of Talk, c'est ça, Owen?
Tout à fait. Et c'est un point qui a été assez important parce que généralement sur Paris, il y a deux gros événements assez connus. Alors il y en a plusieurs, hein, bien sûr, mais il y a le Paris Blockchain Week Summit qui est assez éloigné justement de cette date, et également l'ETCC, donc un événement qui porte principalement sur la technologie et sur la blockchain Ethereum. Et donc à part ce rendez-vous tech assez spécialisé et la Paris Blockchain Week Summit qui s'adresse un petit peu plus aux entreprises, donc au B2B, qui est un peu moins abordable également, ça fait un rendez-vous pour nuancer. C'était une première fois que Proof of Talk avait lieu à Paris. Il y a eu des gros acteurs et la plupart des grosses blockchains qui ont été représentées, pas mal de panels sur 48 heures. Et pour le coup, il y a de grandes chances que l'année prochaine, il y ait une seconde salve de Proof of Talk sur Paris, et ça viendra rythmer d'autant plus les événements crypto que l'on peut avoir dans la capitale française.
Non, mais attendez, trop de bonnes nouvelles. Non, franchement, faut qu'on ait notre dose de régulation, c'est pas possible. Non, mais on enchaîne les bonnes nouvelles. On n'a pas encore parlé de régulation, on y va ?
On peut plus s'en passer maintenant, c'est à chaque fois.
On est addict, franchement. Et notre dose hebdomadaire de régulation, puisque c'est vrai que la SEC continue d'avancer, le gendarme des marchés américains, et notamment vis-à-vis de Binance, il s'est encore passé des choses cette semaine. La SEC qui demande à Binance US le gel de ses actifs. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce que cette demande a été acceptée, Owen?
Non. Enfin, pas totalement. Et c'est assez particulier ce qui s'est passé, dans le sens où la SEC a demandé à faire geler l'entièreté des flux financiers de Binance US. suite notamment à du conflit entre la SEC et Coinbase et celui de Binance, hein, qui est un peu similaire, même si Binance a de plus lourdes accusations. Mais en l'occurrence, l'une des accusations principales qui demandait justement ce gel complet des avoirs était le fait qu'il y avait des doutes sur le fait que Binance US faisait partir des flux hors du contrôle du sol américain. Et la particularité, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé quand même entre Binance US et la SEC, c'est-à-dire que Binance US ne doit plus réaliser aucune autre dépense que pour couvrir ses frais de fonctionnement. Donc ils peuvent permettre à leurs utilisateurs de se connecter, de retirer, mais ils peuvent encore maintenir leur plateforme pour qu'il n'y ait pas de préjudice même sur les services qu'ils offrent à leurs utilisateurs, mais ils n'ont pas à bloquer l'entièreté de leurs services et donc à geler tout leur flux. Et donc il y a une question des tribunaux qui ont été reposés lourdement à la SEC cette fois-ci, et le ton du juge avait vraiment monté, parce que la SEC avait demandé pour ce gel justement des avoirs et ce gel des flux financiers complets de la plateforme, a demandé est-ce qu'il y avait justement une preuve que Binance avait envoyé des flux hors du sol américain. Première question sans réponse, deuxième question sans réponse, et finalement la Security Exchange Commission finit par répondre que non, jusqu'à présent, et dans l'audit qui a été fait, il n'y a aucune preuve qui prouve que Binance US aurait fait sortir des flux et les aurait envoyés du coup vers des territoires offshore. Et donc à ce moment-là, c'était quand même des accusations assez lourdes. On sait que ça a affecté violemment Binance sur les US. Il y a évidemment d'autres chefs d'accusation, mais pour l'instant, la SEC devra se contenter de cet accord qui a été passé avec Binance US.
On imagine hein, Binance qui, pour le coup, se trouve soulagé, et la SEC qui doit être comme dans la pub. Ah, je l'aurai. Là, ça passe à côté, mais je l'aurai une autre fois et peut-être autrement. En tout cas, le patron de la SEC, Gary Gensler, reste extrêmement critiqué, bien sûr, dans l'écosystème crypto, mais aussi de la part de certains politiques américains, au point que certains d'entre eux au Congrès ont lancé des démarches contre Gary Gensler, en l'occurrence, Claire.
Oui, tout à fait. C'est une proposition de loi qui s'appelle la SEC Stabilization Act et qui vise évidemment à restructurer la SEC, mais aussi à destituer carrément Gary Gensler. Alors, c'est une proposition qui est portée par des républicains, donc c'est en fait une proposition qui a peu de chances de passer puisqu'il y aurait besoin du soutien des démocrates pour la faire passer, et c'est hautement improbable. En fait, ce que ça montre, c'est tout simplement qu'il y a des grosses différences, des divergences d'opinion au sein des politiques sur comment les crypto-monnaies et le secteur en général devraient être régulés. Avec, je dirais, certains républicains, en tout cas, qui sont farouchement pro-crypto, ou en tout cas qui ont envie qu'il y ait de l'innovation sur le territoire américain et qui s'inquiètent du sort qui est réservé à certaines plateformes. Et puis, de l'autre côté, certains démocrates qui veulent une régulation beaucoup plus stricte et qui finalement soutiennent Gary Gensler dans ses combats. Mais ça montre aussi que Gary Gensler, aujourd'hui, n'est pas soutenu par l'entièreté de la classe politique et qu'il est dans une posture difficile en tant que régulateur, parce qu'en réalité il mène un combat qui n'est pas seulement juridique mais qui est aussi un combat politique.
Oui, c'est pas une truffe, hein. Il était prof de blockchain, c'est ça, Gary Gensler, avant, dans une autre vie.
Il a fait énormément de choses, mais il a déjà pris la parole, il a déjà par exemple parlé de la blockchain Algorand, et évidemment son discours a bien évolué entre sa position d'aujourd'hui et la position qu'il avait quand il était professeur.
Effectivement, tous les tumultes de Binance du coup lui valent des pertes. C'est lourd ce qui se passe pour Binance, il y a beaucoup de clients qui partent, ou c'est pas si grave que ça, Owen?
Il y a un impact, on en parlait, tu me donnais des chiffres détaillés, ouais. Il y a un impact sur leurs chiffres actuels, mais c'est vrai que la position de Binance de manière générale a également été affectée.
Oui, c'est très difficile. En fait, c'est Binance US qui souffre le plus, puisque forcément, ils sont attaqués particulièrement aux États-Unis, donc ils sont passés de, selon les chiffres, entre 10 et 20% de part de marché à maintenant à peu près 1%. Donc en fait, ils sont vraiment dans une stratégie là de survie et de simplement maintenir le peu d'activité qu'il leur reste aux États-Unis. Mais on voit même que Binance Global souffre aussi, puisqu'ils étaient à plus de 60% de part de marché il y a quelques mois et qu'ils sont maintenant plutôt entre 40 et 45% de part de marché. Donc on sent que voilà, toute cette affaire les fait s'ouvrir, et c'est totalement normal et logique. Ils ont annoncé se retirer d'un certain nombre de pays, notamment le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas aussi, si je ne me trompe pas. Donc on voit bien que là, Binance est pris en étau par les régulateurs aux États-Unis, mais qu'en fait, les signaux d'autres régulateurs dans d'autres pays ne sont pas très positifs non plus. Mon sentiment, c'est que même si c'est évidemment très dur pour Binance, ce n'est pas si mauvais pour le secteur dans son ensemble, d'avoir un exchange qui n'a plus cette place complètement hégémonique. Et c'était peut-être pas très sain non plus d'avoir un Binance qui était au-dessus de 60% de part de marché. C'est peut-être mieux, voilà, d'avoir d'autres exchanges qui viennent prendre cette place. Encore faut-il, bien sûr, qu'il y ait la clarté réglementaire qui se mette en place, notamment aux États-Unis.
On se souvient, il y a quelques semaines, hein, quand Binance commençait à être attaqué par le régulateur, ça avait fait un peu vaciller quand même les cours de certains cryptos et aussi du Bitcoin. Là, c'est plus le cas. Et le Bitcoin, cette semaine, aura donc reconquis les 30 000 $, 30 284 $ à l'instant où l'on se parle. On parle beaucoup de Binance, un peu moins de Coinbase, et pourtant, Coinbase aussi est en lutte avec la SEC. Et pour le coup, c'est la SEC qui vient de remporter une petite bataille quand même en gagnant 120 jours, c'est ça, 4 mois, Owen ?
J'ai plutôt l'impression qu'on est dans un discours de sourds. C'est terrible. Et là où il y a des enjeux avec des allégations un peu plus lourdes vers Binance, Coinbase restant quand même un meilleur élève aux États-Unis, qui se retrouve malgré tout affecté hein, par cette baisse aussi, hein, Coinbase qui perd également des parts du marché dans lequel il était leader. En attendant, ce qui se passe, c'est que pour le coup, Coinbase a demandé une réponse claire sur la régulation. Pour le coup, la SEC vient de répondre en disant qu'il donnerait non pas une réponse en quelques jours comme ça avait été demandé au début par les tribunaux, hein, qui était 10 jours il me semble. Ils ont dit qu'ils répondraient aujourd'hui en 120 jours, mais qu'ils n'estimaient pas la demande de Coinbase raisonnable parce que selon eux, la loi est déjà très claire. La loi permet déjà de se positionner, ce qui est un pied de nez quand on sait que c'est ce manque de clarté qui fait qu'on a une requalification de certaines crypto-monnaies aujourd'hui en tant que securities, qui viennent accuser Binance d'avoir opéré en tant qu'exchange de crypto-monnaies sans autorisation, alors qu'ils étaient en échange quasi mensuel avec la SEC. En l'occurrence, c'est Coinbase qui répond, et c'est pour ça que je vous dis qu'on tourne un petit peu en rond, en disant que ce n'est pas correct d'avoir une réponse ainsi de la SEC, qui donne une échelle de 4 mois, alors que chaque jour, le temps, oui, c'est de l'argent. Surtout en ce moment et surtout pour un exchange qui fait son beurre sur des volumes financiers qui partent et qui vont s'établir dans d'autres pays ou qui vont s'établir sur d'autres plateformes.
Donc les 4 mois qu'a gagné la SEC, c'est 4 mois d'incertitude de plus pour Coinbase.
Tout à fait. Et l'incertitude du côté entrepreneurial est une perte. Alors que ce n'est pas forcément le cas du côté du régulateur. L'incertitude fait peur. Les entreprises, dans l'incertitude, partent et vont s'établir à l'international. D'où également la demande de licence de Coinbase aux Bermudes. Et on le voit d'ailleurs, Coinbase répond en disant « Bon, bah, c'est pas clair et ce n'est surtout pas correct de répondre ainsi, de botter encore une fois en touche. » Alors que Gary Gensler, lui, a la langue un peu plus pendue et se permet d'avoir des positions bien plus claires en disant que la SEC n'a pas prévu de fournir de nouvelles règles plus claires pour les crypto-monnaies. Et donc cette réponse qui dit que le système est déjà clair semble tout simplement une réponse de la SEC pour dire que ça ne les dérange pas du tout et que cette question peut rester ouverte un petit moment.
Bon, Coinbase, Binance, aux griffes, dans les griffes de la SEC, effectivement, le régulateur américain, compliqué. Pendant que voilà, l'ambiance reste assez obscure autour de ces deux acteurs, eh bien, on observe un soleil qui se lève ailleurs. Ouais, le soleil se lève toujours quelque part et on voit de nouveaux acteurs, de nouveaux exchanges émerger pendant que les grands exchanges traversent une période difficile. L'un de ces nouveaux exchanges, Prometheum, a suscité énormément de polémiques claires. Quelques émois, tant des régulateurs que de la communauté crypto. Alors d'abord, c'est quoi Prometheum et pourquoi c'est controversé?
Oui, alors c'est pas très clair. Prometheum, c'est un jeune exchange, pour faire simple, qui a obtenu sa licence de courtier. Et c'est un exchange qui effectivement suscite des débats, notamment dans sa relation avec le régulateur. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'une partie de l'équipe de l'exchange vient d'institutions financières régulées, vient de certaines institutions publiques. Et donc on sent que cela, certaines personnes dans l'équipe ont peut-être des connexions avec le régulateur. Aussi parce que le patron de cet exchange a fait un discours devant le Congrès qui semblait être un discours très policé. C'est un discours qui vraiment flattait quelque part presque la SEC, qui allait dans le sens aussi de certains démocrates.
Bon, en même temps, ils vont pas s'attaquer à la SEC alors qu'ils sont tout nouveaux, tout neufs, quoi.
Bien sûr, ouais. Mais ça tranche avec le discours de certaines autres plateformes d'exchange, notamment Coinbase, par exemple, qui assume désormais certaines positions et qui assume son désaccord avec le régulateur. Là, on sent vraiment que c'est un exchange qui joue le jeu à fond, qui flatte le régulateur, dont une partie de l'équipe vient aussi d'équipes peut-être en lien avec le régulateur. Mais il faut quand même prendre des pincettes parce qu'on sent désormais qu'il y a pas mal de rumeurs sur la toile sur le fait qu'il y aurait des connexions peut-être entre la SEC et cet exchange. Alors, c'est pas très clair. Évidemment, le patron nie plutôt toutes ces rumeurs-là. Ça pose en fait la question plus générale du lien entre les plateformes et les agences gouvernementales et de savoir si finalement le régulateur, quelque part, n'aurait pas envie de pouvoir faire un choix qui ne serait pas purement dicté par des questions réglementaires, mais aussi par des questions plus personnelles, des connexions personnelles au sein de ces plateformes.
Sachant qu'il n'y a pas de preuve de ces connivences.
Non, bien sûr, il n'y a aucune preuve.
Des soupçons, il ne faut pas non plus tomber dans le complotisme.
Voilà. Exactement,
non, c'est clairement.
Il faut prendre des pincettes. Alors là, on parle de rumeurs et d'émois sur la toile. Oui. Pourquoi il y a ces rumeurs-là? Aussi parce qu'en parallèle, il y a des exchanges qui traversent une période difficile. Et donc, quand d'autres ont une sorte de soutien du régulateur et s'affichent main dans la main avec le régulateur, forcément, on les accuse presque de ne pas soutenir le secteur en général et de ne pas être aux côtés des plus gros acteurs, mais quelque part de la jouer un peu perso. Et là, Prometheum, ce qu'ils annoncent aussi d'ailleurs, c'est qu'ils ne listeront pas des tokens qui ne s'enregistrent pas auprès de la SEC. Donc eux ne sont pas du tout dans cette bataille de dire non, tel token n'est pas une security. En fait, ils disent simplement, si la SEC dit que c'est une security, enregistrez-vous. Et donc, ils acceptent complètement ce que dit la SEC et ils ne sont pas dans la même posture, en tout cas, que Coinbase ou Binance.
Et c'est une asymétrie totale avec ce qui se passe sur Binance et Coinbase. Et au même moment, un autre exchange voit le jour aux États-Unis, et ça renvoie exactement la même sensation qu'avec Prometheum. Finalement, c'est EDX, d'accord, qui est un exchange qui lui est lancé que par des pontes de Wall Street.
Ah bon?
Donc on a pour le coup Charles Schwab, a Fidelity Digital Asset. C'est également backé par Citadel Securities.
C'est des pontes de la finance traditionnelle.
De la finance traditionnelle. Au même moment, aux États-Unis, quand tout le monde est en train de partir de ce marché au niveau des cryptos parce qu'il y a une incertitude, qui eux expliquent lister des crypto-monnaies, mais que les crypto-monnaies qui ont déjà fait partie du discours de la Security Exchange Commission et qui ne sont pas des securities. On a du Bitcoin, on a du Litecoin, on a également du Bitcoin Cash et de l'Ether. Et pour le coup, ils expliquent que un peu plus sur un modèle comme fonctionne la bourse, eux, ils vont fournir des courtiers qui, eux, s'adresseront au retail, mais eux fourniront des paires de la liquidité et des échanges uniquement à des courtiers professionnels. Et du coup, on se rapproche beaucoup plus de la méthode de fonctionnement de la finance traditionnelle. Pile au moment où on a dans la même semaine deux annonces du genre, dans une période où aux États-Unis, pour l'instant, personne n'a envie de parler de crypto-monnaie dans une incertitude complète. C'est bizarre.
Et c'est vrai que finalement, ça rejoint aussi ce qu'on se disait en tout début d'émission avec les banques européennes qui vont faire leur demande de licence. Le sentiment général qu'on a en ce moment, c'est quand même que les régulateurs poussent plutôt dans le sens des institutions traditionnelles en leur disant, finalement, puisque les cryptos sont là, allez sur ce marché-là, s'il vous plaît. Mais ils n'ont pas très envie que ce soit les pure players qui prennent ce marché.
Mmh. Ouais. Bon, on a besoin de reconnaître des gens dont la culture est proche aussi peut-être, et de passer par ces gens-là.
Ou de contrôler un flux qui sera quoi qu'il arrive présent, immuable qu'on en ait envie ou non, tant qu'à faire, autant gérer les canalisations qui permettent de le gérer.
Mais ils ont raison, les petits exchanges, de vouloir se faire bien voir par le régulateur, on peut pas leur en vouloir, c'est normal.
Les petits exchanges, quand il y a Citadel Securities voilà.
Non, vous avez raison. C'est pas Binance, quoi. C'est ça que
non, mais c'est probablement un mélange de recherche de compétences, parce que forcément, quand on a des années de carrière en banque ou dans une institution financière, on sait gérer les procédures, on sait gérer le régulateur. Mais il faut pas se leurrer. Il y a aussi de la politique, finalement, derrière tout ça, et ça pose la question de comment on régule ces nouvelles technologies.
Merci à tous les deux, les pros des cryptos chaque vendredi, Claire Balva, experte crypto indépendante, et Owen Simonin qui enlève ses lunettes, pour Meria, à la tête de Meria, Psan, enregistré Psan, Owen, on espère que vous aurez l'agrément d'ailleurs. Vous serez le premier ou pas à l'avoir?
On ne sera pas le premier.
Ah bon, ce sera qui le premier, vous savez ou pas?
Bon, j'ai ma petite idée.
Ah bon? Et il est aussi à la tête de la chaîne YouTube Hacher, avec un H, puisque vous êtes aussi le plus gros YouTubeur francophone au monde. Oui. Merci de nous avoir accompagnés tous les deux.